Le changement, c'est une chose vitale à l'existence. On dit que les jours se suivent, mais elles ne se ressemblent pas. Et c'est vrai. Imaginons une vie qui consiste à revivre chaque fois exactement la même journée des milliers de fois jusqu'à notre mort. Imaginons une vie où tout changerait sans cesse. Ça n'est pas possible. Certains jours, on pourrait compter sur l'air, d'autres jours, il n'y aurait plus d'air pour respirer, plus d'eau. Les visages de nos amis, de nos familles seraient transformés au cours de la nuit. On se réveillerait chaque matin dans un monde entièrement différent. On a donc besoin dans la vie de ces deux choses, de la permanence, mais aussi du changement. Ce que je voudrais pour vous parler, c'est des changements, l'importance des changements dans notre vie, pour nous-mêmes et pour notre entourage. Refuser le changement offert par Jésus-Christ, c'est refuser en fait de mieux vivre. Et c'est refuser à notre entourage la possibilité de mieux vivre. Dans Jean 8, verset 12, Jésus dit « Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Il faut un changement pour suivre Jésus. Le poète portugais Fernando Pessoa, dans un de ses poèmes, Bureau de tabac, il dit « Je veux bien que la vie coule en moi, pourvu que je ne change pas. » Et à la fin de ce même poème, il dit cette phrase terrible « J'ai tout raté. » Le refus de changer nous amènera à dire un jour la même chose « J'ai tout raté. » J'aimerais vous donner quelques raisons qu'on avance pour refuser de changer. La première, que j'entends assez souvent, c'est « Je suis trop vieux ». Pourtant, je n'ai jamais entendu quelqu'un d'âgé qui avait gagné au loto dire « Je suis trop vieux pour recevoir 1 million de francs. Toute ma vie, j'ai vécu pauvre. Je suis trop vieux pour être riche à présent. » Je n'ai jamais entendu quelqu'un d'âgé qui disait à quelqu'un qui l'aimait, qui voulait vivre avec lui, « Je suis trop âgé pour qu'on m'aime. Je suis trop âgé pour qu'on vive avec moi. » D'autres personnes disent « Je suis trop jeune. » « Je suis trop jeune » est une excuse que l'on entend sans arrêt autour de nous. Quand on voit que quelque chose peut nous apporter de la joie, pourtant, ou du plaisir, je n'ai jamais entendu quelqu'un dire « Je suis trop jeune ». La première fois que j'ai fait la gaffe de parler de ski à mon fils aîné, il ne m'a pas dit « Tu sais, papa, je suis trop jeune pour faire du ski. » Et mon petit garçon de 7 ans, il n'est pas trop jeune pour rien, ni pour aller au restaurant, ni pour faire du karting, ni pour faire du ski. Il y a d'autres personnes qui disent « Je ne suis pas capable de changer. » Et je vais parler de ça un peu plus tard. En fait, il y a une seule bonne raison à donner pour ne pas changer. La seule raison qui soit honnête, c'est celle du poète Fernando Pessoa que j'ai cité tout à l'heure. Cette raison, c'est simplement « Je ne veux pas changer. » En effet, celui qui a décidé de ne pas changer ne changera pas. Comme celui qui a décidé de ne pas se laver ne pourra jamais être propre. Quelle sorte de changement Jésus demande? Quelle sorte de changement peut enrichir notre vie par Jésus? D'abord, est-ce que c'est un changement de religion? Car souvent, les gens me demandent, est-ce que vous essayez de me faire changer de religion? Pour répondre à cette question, il faudrait se demander quel sens le mot religion a dans l'enseignement de Jésus ou dans la Bible. Or, une réponse me vient tout de suite à l'esprit. C'est qu'en fait, il est difficile de répondre à cette question, car Jésus n'a jamais employé le mot religion. En fait, le mot religion ne fait pas partie réellement du vocabulaire biblique. L'Ancien Testament est écrit en hébreu, le Nouveau Testament est écrit en grec. Or, le mot religion vient d'un mot latin, religare. Et si l'on cherche ce mot religion dans les évangiles, on ne le trouve pas. En fait, le mot religion vient du vocabulaire païen, du vocabulaire des religions païennes. Ce mot veut dire relier. Et pourquoi? Parce que dans ces religions, les hommes avaient un rôle, une fonction de relier les dieux entre les hommes, ou de relier les dieux aux hommes, d'être des médiateurs entre les dieux et les hommes. Or, une des choses qui ressort de l'enseignement du Christ, c'est qu'entre Dieu et les hommes, il ne peut pas y avoir de médiateur humain, pour la simple raison que tous les hommes, sans exception, sont pécheurs et imparfaits. Il faut donc un moyen pour que la relation entre Dieu et les hommes puisse se faire, disons, directement. Ou s'il y a une médiation ou un médiateur, c'est-à-dire un prêtre, il faut que ce médiateur, ce prêtre, soit lui-même parfait, sans péché. En fait, ce médiateur ne peut être que Dieu lui-même. Mais pour être médiateur, il a fallu que Dieu vienne parmi les hommes, qu'il devienne médiateur, qu'il s'incarne. Cette incarnation de Dieu est appelée Jésus-Christ. Jésus-Christ, dans la Bible, dit qu'il est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. 1 Timothée 2, verset 5. Si Jésus n'est pas venu apporter une religion, qu'est-il venu apporter? La réponse qui me vient à l'esprit en lisant dans l'évangile de Jean, c'est que Jésus est venu apporter la vie. Jean 1, verset 4 nous dit qu'il était la vie. La vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas accueilli. Si Jésus était venu apporter une religion, il aurait été accueilli à bras ouverts. Il n'aurait pas été rejeté, il n'aurait pas été condamné à mort par les dirigeants de la religion de son temps. Si Jésus était venu apporter une religion, il n'aurait pas insisté comme il l'a fait sur le fait que les hommes sont incapables d'être intermédiaires entre Dieu et l'humanité, ce qui est le fondement de toutes les religions. Jésus a dit en Jean 14, 6, « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Jésus donc nous apporte la vie plutôt qu'une religion. Il nous montre d'abord d'où vient notre vie, d'où elle a sa source. La mort n'existe que parce qu'il y a la vie. Mais d'où vient la vie? La vie vient de la vie. La réponse est simple. Aucun organisme vivant ne peut provenir du non-vivant. Seul le vivant peut produire ce qui est vivant. La science d'aujourd'hui nous dit que la vie est d'une telle complexité qu'il est mathématiquement impossible à une seule cellule de se fabriquer par hasard tout seul. Les mathématiques des probabilités nous disent qu'en prenant en compte le temps qu'il faudrait pour que se fabriquent par hasard les éléments les plus élémentaires de la vie, notre univers est beaucoup trop jeune pour qu'apparaisse la vie par hasard. Je vais citer quelques exemples. George Weil, le prix Nobel, nous dit que l'apparition spontanée de la vie dans l'univers est mathématiquement impossible. Mais il ajoute, ce scientifique, « j'y crois malgré tout ». Aaron Horowitz dit, lui aussi, que l'apparition de la vie par hasard est une chance sur 10 puissance 340 millions. Or, nous savons qu'un événement par hasard est impossible au-delà de une chance sur 10 puissance 50. Donc, dans ce livre « Le hasard et la nécessité », Jacques Monod écrit que la probabilité a priori que se produise un événement particulier parmi tous les événements possibles dans l'univers est voisine de zéro. Pour Monod, malgré l'impossibilité mathématique d'une apparition de la vie par le hasard, nous sommes pourtant obligés d'accepter que la vie est venue par hasard. Et pourquoi? Car sinon, nous devrions croire en Dieu. C'est ce que le scientifique appelle le postulat d'objectivité. Mais si tout tente à prouver qu'il doit y avoir un créateur intelligent derrière l'univers, nous devons le croire et non pas refuser cette possibilité. Jésus démontre cette source de la vie comme étant Dieu. Certains me disent, s'il n'y avait pas les miracles, je pourrais croire en Jésus. Pourtant, comment pouvons-nous croire que quelqu'un qui dit « je suis la résurrection et la vie » et qui devant la mort est incapable de faire quoi que ce soit? Les miracles sont nécessaires, indispensables, parce qu'ils vont de pair avec des affirmations hors du commun. Jésus démontre la victoire de la vie sur la mort en acceptant de mourir. Et il avait à sa disposition beaucoup de moyens possibles pour éviter cette mort. Mais dans Jean 12, 24, il dit « Si le grain de blé ne tombe en terre et ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. » Jésus savait que pour Dieu, il n'est pas plus difficile de ressusciter un mort que de refaire vivre un grain de blé semé en terre. Jésus démontre que l'homme n'a pas seulement une vie physique, mais aussi une vie spirituelle. La différence fondamentale entre la vie physique et la vie spirituelle est ceci. Nous n'avons pas choisi de vivre physiquement, de naître en ce monde. Par contre, la vie spirituelle est notre propre choix. Nous pouvons choisir d'avoir une vie spirituelle qui aura un impact sur notre vie présente et aussi dans l'éternité. Le changement fondamental auquel Jésus nous appelle et qui peut transformer notre vie, c'est de choisir de naître à une vie spirituelle, à une vie de communion avec Dieu qui est lui-même source de vie, à une vie de soumission à Dieu, à une vie d'espérance en Dieu. Ainsi, Jean 3, verset 4 dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Si un homme n'est d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » En parlant de l'eau et de l'esprit, Jésus résume dans ces deux termes les deux choses les plus essentielles à cette nouvelle naissance. Quelles sont ces deux choses? Il y a l'esprit et il y a l'eau. L'esprit de Dieu, c'est l'esprit qui nous touche. C'est Dieu qui nous touche. Car l'Esprit de Dieu vise à nous toucher lorsque nous lisons ou nous méditons sa parole. L'eau, Dieu fait sa part en nous donnant la possibilité d'être touchés par sa parole. Notre réponse à nous, c'est le baptême. En effet, le baptême biblique est le moment où l'on meurt et où l'on renaît à une vie nouvelle avec Dieu, selon Romains 6, verset 4 suivant. Toutes les églises chrétiennes sont d'accord que c'est cela qu'enseigne le Nouveau Testament et que c'est cela qui était pratiqué par les premiers chrétiens. Ce n'est pas une question d'interprétation, c'est plutôt une question de mise en pratique. Le baptême marque un commencement et non une fin dans le changement. Avec le baptême, il y a deux promesses. En acte 2, verset 38, il y a le pardon et il y a le don du Saint-Esprit. Sans ce pardon et sans ce don du Saint-Esprit, il n'y a pas de vie spirituelle. Grâce à ces deux choses, nous pouvons alors changer de jour en jour. Nous n'atteindrons jamais la perfection dans cette vie. Nous en serons toujours très loin, mais nous avons pris une direction dans laquelle nous avançons. Le christianisme du Nouveau Testament n'est alors pas une religion, mais c'est l'entrée dans une vie nouvelle et le le changement permanent dans cette vie nouvelle.